Europe 1.
Chaque après-midi, il nous accompagne dans la bonne humeur. Informer et divertir, telle est sa mission. C'est Mathieu Noël et son équipe est sauvage, semi-confinée. Les journalistes d'Europe 1 continuent bien sûr à batailler à coups de chronique. Eva Rock ne manque pas à l'appel. L'équipe est sauvage, le meilleur moment. C'est donc parti avec d'ici à 17h une séquence hommage à Bill Withers. Mais oui, Ain't No Sunshine, classique universel. On va retrouver l'écrivain à succès Joël Dicker. Au programme également, les rats attaquent à New York. Et notre été au bord de l'eau avec le coronavirus. Mais avant tout cela, eh bien, on prend des nouvelles du réalisateur d'OSS 117 et The Artist, Michel Hazanavicius. C'était ce lundi sur Europe 1.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage. Deux heures de bonne humeur et de découverte pour vous, de stress et de coups de poignard dans le dos pour eux. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture G. Tous les coups sont permis pour décrocher la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour. Et nos deux premiers concurrents, Axel de Tarlet, notre expert éco, et Anissé Mbida, le beau gosse de l'innovation, le savent parfaitement. Ils ont déjà commencé à se chauffer hors antenne. Visiblement, Axel ne supporte plus l'image de Playboy d'Anissé.
Ah, voilà enfin le roi de la classe, style le grand Playboy qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi, je les baise, moi, les ménagères.
Tu baises les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde.
Et je t'arrête tout de suite.
Messieurs, un peu de tenue, quelle image allez-vous donner d'Europe 1 à notre invité du jour? Bonjour Michel Hazanavicius.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur oscarisé de The Artist et également des deux OSS 117, Le Cœur Nid d'Espion et Rio ne répond plus, qui, si ça n'avait tenu qu'à moi, aurait reçu aussi deux Oscars. Et l'un de vos premiers films, en fait, un détournement de film culte, est aussi la Madeleine de Proust de toute une génération. On vient d'en entendre un petit extrait, il s'agit de La Classe américaine qu'on peut désormais se procurer en livre. Comment on pourrait résumer, Michel, ce qu'est La Classe américaine pour quelqu'un qui, contrairement à moi, ne l'aurait jamais vu?
Comme peut-être un des films les plus débiles qui ait jamais été fait, mais avec beaucoup de sérieux, par contre, oui. Et avec un des plus beaux castings du monde en même temps. Il y a à la fois John Wayne, Burt Lancaster, Dustin Hoffman, Robert Redford, enfin plein d'acteurs mythiques qui disent plein de conneries, tout aussi mythiques d'ailleurs. Donc,
et ce qui est fou, c'est que vous avez, on va en parler tout à l'heure, mais vous n'avez jamais été poursuivi pour ça. C'est-à-dire que, parce que vous, j'imagine que vous n'avez pas les droits de ça. Enfin, on ne peut pas détourner et faire dire ce qu'on fait dire dans ce film à John Wayne. Il n'y a pas eu de problème juridique.
Non, on était un peu sur le fil en fait. C'est-à-dire qu'on on était quand même vaguement couvert par quelqu'un de Warner à l'époque. Mais on n'a pas 100% les droits, non. C'est pas tout à fait honnête, mais c'est pas sûr. Tout à fait malhonnête.
Non, juste une précision, ouais. C'est que La Classe américaine, vous pouvez le regarder sur YouTube aujourd'hui.
Ah,
voilà,
oui,
c'est disponible.
C'est disponible,
voilà.
Et vous pouvez le regarder.
Pour ceux qui connaissent pas, vous allez découvrir cette œuvre magistrale.
Et on va aussi parler d'une masterclass qui arrive sur Canal+. Ça s'appelle Magistral et vous donner un cours complet de l'écriture du scénario jusqu'à la sortie du film. C'est toujours gratifiant pour un réalisateur de parler de son métier ou bien comme un magicien, il n'aime pas révéler ses tours en réalisateur.
Non, c'est agréable. Après, on se demande toujours si ça intéresse vraiment quelqu'un, mais c'est agréable parce que d'habitude, quand on parle d'un film en particulier, etc. Mais on parle pas tant de ses doutes, de ses de la manière dont sont faites vraiment les choses, quoi. Donc de parler de son métier, je trouve ça toujours agréable, ouais.
Alors là, une masterclass sur Canal+ nous permet de découvrir la manière dont vous travaillez, toute l'œuvre de création de A à Z. C'est ça qui est passionnant dans cette masterclass. Et c'est pas compliqué quand on est artiste de parler de ça parce que ça reste quand même tout n'est pas rationnel dans la manière dont on travaille quand on est scénariste. Est-ce que vous arrivez facilement à l'expliquer?
Non, facilement, non, mais moi, c'est pas moi qui ai proposé à Canal+, d'aller les voir et leur disant, écoutez, j'ai un truc vachement bien, c'est je vais vous raconter comment je travaille. Donc, ils viennent me voir, on parle un petit peu, je leur dis, voilà, moi, ma méthode de travail, c'est ça. Et puis eux, ils me disent, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on cherche, et donc, je me lance là-dedans. Mais en gros, j'essaye de donner quand même. Moi, comme j'ai une méthode, un petit peu de travail, c'est de ça dont j'ai parlé, quoi.
Ouais, vous êtes très minutieux. Hein,
c'est très
pour ceux qui connaissent pas bien la comédie, c'est ce qui exige le plus de précision. Et vous êtes dans un travail de haute précision, quoi.
J'essaye de faire. Il y a rien de plus triste qu'une vanne qui marche pas, qui tombe à côté, où on sait que pourtant il y avait un truc hyper marrant. Et puis ça fait un four, donc j'essaye de les travailler au mieux, quoi, pour que pour que ça fasse marrer, quoi.
On parlait des dialogues, l'importance des dialogues. Vous dites, je n'aime pas les dialogues qui sont au-dessus des personnages. Vous n'êtes pas qu'un homme de dialogue. Vous savez, quand on voit S117, moi, je vous considérais un peu avant comme un réalisateur très pointu sur les dialogues uniquement. Puis il y a eu The Artist, pas de dialogue du tout, ouais. Qui prouve que voilà, vous avez une autre manière de vous exprimer. The Artist, film muet. Jean Dujardin, je crois, a été déstabilisé par l'absence de texte au début. C'est vrai cette histoire qu'il a un petit peu hésité.
Oui, c'est vrai parce que il s'attache énormément au texte. Mmh. C'est-à-dire que lui, il fait ses gammes en répétant des phrases qu'on a même déjà tournées la veille, en fait. Donc, il a une approche qui est vachement, vraiment, enfin, collée au texte. Après, d'abord, il y a quand même quelques dialogues dans The Artist. Ils sont écrits, mais ils sont pas mal. Moi, je les aime bien, les dialogues. Non, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien quand l'image raconte. Et du coup, les dialogues, c'est vraiment les dialogues. Ils sont pas là, c'est pas des béquilles pour faire avancer l'histoire, quoi. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec les dialogues. Après, moi, j'adore ça. Mais ce que je fais, ce que j'aime bien, c'est prendre justement des personnages qui parlent, des bavards, quoi. Jean-Luc Godard, comme OSS, c'est des parleurs, quoi. Donc, on peut leur mettre des dialogues très écrits, très, comment dire, même surannés, avec un vocabulaire très spécial. Et ça fonctionne parce que le personnage l'encaisse, quoi. Mais si vous faites un Monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui, quotidien, etc., il n'a aucune raison d'avoir des phrases
compliquées
avec une tournure très musicale, quoi.
On pourrait l'écouter pendant des heures, Eva. Hein.
Ouais,
Michel Hazanavicius, vous l'aurez compris, fait partie de ces invités dont je suis vraiment fan, d'où les hectolitres de flagornerie que je déverse sur lui aujourd'hui. Pas trop gênant, Michel?
J'aime quand on m'enduit d'huile.
Une chance pour moi.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Peut-on attraper le coronavirus en se baignant à la piscine ou dans la mer? L'eau est-elle vecteur de propagation? Alors que l'été approche, plusieurs études se penchent sur les risques de contamination dans les eaux de baignade. On fait le point avec Mathieu Noël, Eva Roch et Ève Roger.
Le gouvernement devrait cette semaine répondre à la question qui brûle les lèvres de tous les Français. À quoi vont ressembler nos 2 mois d'été? Aurons-nous le droit de venir nous entasser par centaines sur les plages de la Côte d'Azur? Eva Roch pourra-t-elle reluquer les corps glabres et bronzés des vendeurs de chouchous baignés? Bref, quelles vont être les conditions sanitaires de nos baignades? Et la mer et en piscine, quels seront les gestes barrières à adopter? Une chose est sûre, il faudra faire preuve de prudence.
Allez, viens me baigner, elle est vachement bonne. Aïe! Oh, je me suis fait un mal de chien.
Bah évidemment, c'est une décharge à ordures ton truc, je suis sûr qu'il y a des rats.
Non, il y a pas de rats. Où tu vas?
Pauvre con.
Ève Roger, quand on choisit mal son spot, la baignade peut être dangereuse, mais cet été, même si elle est autorisée, elle pourrait bien être dangereuse partout, la baignade, avec le virus.
Alors, on va d'abord commencer sur la partie sanitaire. Est-ce que c'est dangereux ou pas de se baigner avec le coronavirus? Alors, dans la mer, pour l'instant, non. L'Ifremer a fait une étude. Ça ne passe pas dans l'eau. Ils ont étudié 4 échantillons d'eau et puis des mollusques, crustacés, palourdes, moules et huîtres. Ils n'ont pas retrouvé du coronavirus. Alors c'est vrai que c'était pendant le confinement, mais pour l'instant disons que c'est rassurant. Alors pourquoi? Parce que la mer est salée et que la membrane du virus supporte assez mal le sel. Alors ça, pour l'instant, c'est bon pour la mer. En piscine.
Alors
en piscine,
là, avec le chlore.
Exactement, c'est le même effet. C'est-à-dire que le chlore, ça ne fait pas bon ménage entre le chlore et le virus. C'est le Haut Conseil de Santé Publique qui nous l'a dit le 20 avril. Donc a priori, pas de problème ni pour la mer ni pour la piscine.
Mais alors pourquoi les piscines restent fermées?
Parce que c'est tout le reste qui n'est pas safe, c'est-à-dire les vestiaires, la douche, le fait de se croiser dans les lignes. C'est-à-dire qu'on se croise en général à moins d'un mètre. On peut tousser, éternuer, la transmission du virus n'est pas forcément impossible dans l'eau quand on nage. Mais j'ai une très très bonne nouvelle parce que moi je l'attendais avec impatience. Il va y avoir une expérimentation début juin dans une dizaine ou une quinzaine de piscines et on pourra réserver des créneaux sur internet avec des horaires ultra stricts.
Et nager seul?
Je crois peut-être à 2 à 3 dans la ligne, peut-être on pourra y arriver avec des bracelets spécifiques en fonction des horaires. Et puis en fonction de ça, il y a peut-être moyen de pouvoir se rebaigner peut-être d'ici la mi-juin. Alors que dans certaines régions en Espagne et puis en Italie, ça y est, les piscines ont rouvert depuis hier et en même temps que ça va vous intéresser, Mathieu, en même temps que les salles de sport.
Oh, les salles de sport, ça serait bien que
bonheur,
ça.
Ça va venir.
En bord de mer, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On n'y comprend plus rien.
Alors, ça c'est vrai. Alors, en France, déjà 72% des communes du littoral ont rouvert les plages. Donc, ça c'est aussi plutôt les 3/4, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour la plupart, on est sur le mode australien, vous savez, c'est le mode dynamique, c'est-à-dire
les plages actives.
Pas de position assise ou couchée sur la serviette, pas de bain de soleil, pas de pique-nique non plus, ni de volley, si vous aimiez le volley ou le foot. Alors on peut.
Bien surtout regarder des matchs de beach volley, surtout assis, avec des chips, et regarder des matchs de beach volley féminin.
Nous qui n'avons pas pu aller à la salle de sport, c'est plutôt bien le concept des plages aujourd'hui. Est-ce qu'on est obligé de faire du sport?
Donc alors on peut marcher, courir, pêcher, nager, naviguer. mais rien d'autre. Certains maires ont commencé à faire des exceptions pour les mamans avec les enfants ou pour les seniors, mais pour l'instant c'est encore rare. Alors à ce jour, il y a deux exceptions en France sur cette histoire de plage dynamique, où on peut rester assis. C'est d'abord à la Grande Motte, vous savez, où il y a des espaces qui ont été installés, 70, vous pouvez y réserver soit le matin, soit l'après-midi, 3h30, donc vous pouvez réserver pour 2, pour 4 ou pour 6, et puis ça existe aussi à Le 4. On ne sait pas encore ce que ça va devenir pour l'été.
Et cet été, est-ce que ça sera pareil? Est-ce que ça sera impossible de s'allonger les doigts de pied en éventail au soleil, comme on aime faire avec Eva?
Alors, je vous rappelle quelques chiffres. Il y a 35 millions de visiteurs qui vont sur les plages l'été en France, donc français et touristes. Et il y a 2000 km de côte, donc ça fait 4%, 35 millions sur 4% du territoire, à touche-touche, donc avec le Covid, si Covid encore il y a cet été. Mais c'est possible que ce système de réservation soit un peu étendu cet été. On en saura plus ce jeudi, grâce à Édouard Philippe, mais en tout cas, ça se prépare à Argelès-sur-Mer, par exemple. Dans les Pyrénées-Orientales, le maire a déjà prévu un système de tickets électroniques pour aller sur la plage, comme on fait avec le ticket du cinéma.
Ils vont écrire le numéro de la place sur le sable.
Oui, c'est sûr.
Pardon, si je peux me permettre, à Argelès, les plages sont très grandes, très larges, donc vous pouvez faire ça. Aller faire un système de tickets sur la Côte d'Azur, là où nos plages sont de plus en plus petites.
À Cabourg aussi, cet été, le maire prévoit une alternance d'espaces dynamiques et d'espaces statiques. Donc ça va être possible que ça soit comme ça, avec 5 mètres carré par famille.
Alors, donc, à l'étranger,
voilà. Alors, c'est encore plus strict sur les plages parce que, vous savez, les pays qui attendent beaucoup de touristes, la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, ont mis en place des systèmes parce qu'ils veulent rassurer les touristes que nous sommes ou que sont les autres. Donc, en Grèce, on pourra y aller dès le 15 juin. Enfin, on croise les doigts. Et il y a 16 000 km de côte. Il faudra 40 baigneurs par 1000 mètres carrés. Ça veut dire à peu près 4 mètres carrés par baigneur.
Oh, c'est beaucoup, hein.
Donc, il faut 4 mètres entre les parasols. Oh.
Ouais.
Donc c'est quand même assez large. Et en dessous des parasols, il pourrait y avoir que deux transats et éloignés à 1m50 les uns des autres.
Ça va être dur pour rentabiliser tout ça pour les plagistes.
Et puis l'Italie, à Rimini par exemple, sur la côte adriatique, il y a 150 000 parasols et en gros, ils prévoient qu'il n'y aurait que la moitié. Ça veut dire que c'est effectivement, et ça risque d'être le cas dans les plages privées, comme vous disiez, sur la Côte d'Azur ou à Saint-Tropez ou à Nice, je ne sais pas.
Oui.
En revanche, en Suisse, Mathieu, si vous avez l'intention d'aller vous baigner dans le lac de Genève.
Non, la Clément, bien sûr, elle est bonne l'été.
Faites attention.
À Genève,
parce que là, on n'a pas d'assurance sur les lacs et les étangs, parce qu'il n'y a ni chlore, ni sel. Donc, on n'est pas tout à fait sûr.
Bleu de bleu. Bah alors, je vais peut-être y penser à deux fois. J'irai plutôt dans votre jacuzzi, alors. Au fait, il marche bien, ce jacuzzi?
Alors, je ne sais pas si je peux vous tout raconter.
Si, mais racontez-nous.
Il ne marche pas?
Si, il marche, mais alors l'eau se trouble un peu. Et donc, mon mari a passé la nuit à le vider, puis à le re-remplir pour aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, il marche.
Et j'ai une petite solution. Ne faites pas pipi dans le jacuzzi.
Okay. Voilà. On en parle à nos filles.
Ça, vraiment, toujours. Ça, c'est vraiment toujours l'élégance des baroques. Hein. Vraiment, en tant que Suisse, je suis choqué.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et à présent, l'un de nos correspondants à l'étranger qui est revenu cette semaine sur la conséquence de la fermeture des restaurants à New York.
Il perpétue à l'international et notamment aux États-Unis le mythe du French Lover. Après Maurice Chevalier, Alain Delon, il faut désormais compter sur Xavier Yvon. Le correspondant d'Europe 1 à New York, Xavier et sa devise.
C'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit plus draguer.
Alors Xavier, draguer, c'est bien joli, mais il va peut-être falloir surtout penser à dératiser. Dans le monde entier, des phénomènes se multiplient, des canards sur le périph' à Paris, des chèvres dans un village anglais, un cougar, et non pas une cougar dans les rues de Santiago du Chili, des dauphins dans les calanques, on a vu ces images pendant le confinement. Avec l'arrêt de l'activité humaine, la vie sauvage a repris ses droits un peu partout dans le monde. Et chez vous, Xavier, à New York, vous aussi, vous avez des animaux qui se montrent, mais c'est des rats.
Oh.
Oui, on a de la chance, c'est parce que c'est parce qu'ils ont faim. C'est une conséquence inattendue de la pandémie. Les rats new-yorkais crèvent la dalle. Il n'y a pas que les humains qui peuvent plus aller au restaurant. Les rats aussi. Alors nous, on peut toujours se faire livrer. Mais il y a des colonies de rats ici qui se nourrissent des déchets des restaurants. Écoutez bien, depuis des centaines de générations. C'est un spécialiste des rongeurs urbains qui le dit dans le New York Times. Fini donc les gueuletons la nuit dans les poubelles des restos branchés de Greenwich Village, des cantines de Chinatown ou celles de Luigi ou tous les autres restos italiens. Et ça rend les rats agressif au point que le Centre de contrôle des maladies a émis une mise en garde. Le CDC, le CDC, c'est l'agence fédérale qui gère les questions sanitaires et qui a autre chose à faire en ce moment avec le coronavirus. Pas de panique, nous disent les experts ici à New York. Les rats on manque de nourriture, sont surtout agressifs les uns envers les autres. Ils se battent et même parfois, ils se mangent entre eux. Mais
oh, c'est Fight Club chez les rats, quoi.
Exactement. Ils sont susceptibles d'envahir des quartiers plus résidentiels, comme chez moi, pour aller faire les poubelles. Exactement. D'ailleurs, j'ai bien lu tous les conseils. Il y en a un, c'est de vérifier qu'il n'y a pas un trop grand espace sous votre porte d'entrée.
Oh,
un demi-inch. Et oui, un demi-pouce, c'est à peu près un centimètre. Ça suffit pour qu'un rat se glisse chez vous, et surtout un rat affamé, c'est compliqué.
Mais pourquoi plus à New York qu'ailleurs, ce phénomène, Xavier ?
Parce que New York et les rats, c'est une longue histoire. On dit que c'est la ville parfaite pour les rats, avec ses égouts, ses restaurants. Et la légende urbaine disait qu'il y avait 5 fois plus de rats à New York que d'habitants. Alors la seule étude sérieuse est plutôt rassurante. Elle estime que c'est plutôt un rat pour 4 New-Yorkais. Ça fait quand même 2 millions de petites bêtes, quand même. Des petites bêtes qui font ici partie du folklore de la vie de New York. Est-ce que vous savez qui est le rat le plus célèbre de New York ?
Ratatouille.
Mais non, il est parisien.
Ah oui, c'est vrai.
Ah,
oui,
merci
de la carte
de suivre. Non, si vous aviez la culture, vous auriez pu me répondre le rat des Tortues Ninja.
Effectivement,
mais c'est
pourtant
des tortues,
ma génération.
Les Tortues Ninja.
Le maître.
Pardon,
voilà. Mais c'est pas lui.
C'est des tortues, les tortues ninja,
c'est pas des rats. Il y a des rats dans les tortues.
Non, mais leur maître, c'est un rat.
Ah, d'accord. Bah, je connais.
Disons que Nicolas Caron,
vraiment compter sur Nicolas.
Plus de culture, Club Dorothée, je vois. Très bien.
Non, alors qui
voilà,
c'est
bon, en tout cas, c'est pas lui.
Ouais. C'est qui?
C'est pas lui. C'est le rat qu'on appelle Pizza Rat. Le rat pizza, c'est évidemment un surnom. Et oui, c'est un rat qui a été filmé en train de s'enfiler une part de pizza sur les marches du métro il y a quelques années. Mais comme un vrai New-Yorkais, la vidéo a fait sensation, le tour d'Internet. Et c'est devenu, ici, une sorte de jeu pour les New-Yorkais de filmer des rats dans des situations inattendues. Alors, on a eu le rat Donut, il n'est pas policier, hein. Le rat Café, qui se presse sur le quai du métro avec son gobelet, encore une fois, comme un vrai New-Yorkais. Si, vous
enfin,
mettez
si vous les encouragez aussi, il ne faut pas vous
faire. On leur donne pas de pièces, hein, on les filme. Et on a plus récemment eu le rat Salade avec son bol de chou kale et autres quinoa.
Si les rats commencent à bouffer du quinoa, c'est vraiment inquiétant.
Ouais,
c'est vraiment qu'il n'y a plus rien à bouffer. Hein, parce que le rat, il sait ce qui est bon.
Et ça existe. Et donc, voir des rats à New York, c'était pas rare. Mais maintenant qu'ils sont privés de pizza, de café, de donuts et puis de salade healthy, eh bien, ils vont être encore plus visibles.
Vous en avez vu, Xavier ?
Oui, alors le dernier rat que j'ai vu, il n'était pas très en forme, il était même un petit peu mort. En fait, il était en train de se faire bouffer par un chat de gouttière dans un caniveau, parce que New York, c'est aussi une jungle urbaine.
Pardon, j'ai pari.
Une jungle urbaine, vous avez ri, attention.
Non, c'est triste.
On ne rit pas. Si Brigitte Bardot nous écoute, même un rat a le droit de vivre. Merci Xavier Yvon. Nicolas, vous connaissez New York ?
J'étais allé une fois, c'est vraiment décadent. Hein.
C'est dangereux.
Confirme.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, bien sûr. Et on pense aussi aux enfants dans l'équipée sauvage. Place maintenant à la sélection d'Eva Rock pour occuper les enfants, les ados, alors que les parents télétravaillent. Et elle nous a trouvé cette semaine une série italienne sur Netflix et une série d'animation sur MyCanal.
Bachet, notre correspondant dans l'Est et père de 4 enfants, nous avouait jeudi dernier ce que nous sommes beaucoup à ressentir, mais peu à oser l'exprimer.
J'ai beaucoup de facilité à détester les enfants des autres.
C'est assez juste, sauf que ça c'était avant le confinement. Car depuis, phénomène nouveau, de plus en plus de parents ont une facilité à détester leurs propres enfants. Pour lutter contre ce phénomène, Eva Rock vous propose chaque jour un programme pour les occuper pendant que vous télétravaillez.
Exactement, et alors en ce lundi, une formidable série d'animation et une série pour les ados. On va commencer avec cette série pour les ados. C'est une série italienne, Mathieu, en l'occurrence, qui est à découvrir sur Netflix, qui est intitulé 3 mètres au-dessus du ciel. On ne pourra pas dire que la distanciation n'est pas respectée d'ailleurs. Alors, extrait de la bande-annonce et vous allez tout de suite comprendre quel est le principal sujet.
C'est pas ce que t'écris qui compte, d'accord ? C'est les émoticônes qui sont importants.
Elle a répondu avec un singe.
C'est super bon signe, le singe.
Depuis que t'es avec cette fille, t'en as plus rien à foutre de rien.
Si tu savais comme je me sens bête.
T'es loin d'être bête. T'es juste amoureuse.
Vous avez compris quel est le thème du principal ?
Ce que j'ai compris surtout, c'est qu'une série en italien, vous me la regardez en italien quand même, sinon on perd une partie de la saveur.
Ah oui, il faut la regarder en italien. Non, mais là c'était pour évidemment pour que vous compreniez un peu les dialogues. Il s'agit d'amour, évidemment. Alors le tout dans un décor paradisiaque avec de grandes plages de sable où Summer, c'est l'héroïne, rencontre Ale. Alors elle est issue d'un milieu très modeste, lui d'un milieu très bourgeois. Elle, c'est une élève brillante pendant que lui a arrêté l'école pour se consacrer aux courses moto. Vous attendez pas à des rebondissements. On est vraiment dans la série plutôt bleuette, adaptée d'un best-seller en Italie qui avait déjà eu droit d'ailleurs à une version adaptée au cinéma. L'image, elle est très belle, la bande-son est soignée, mais c'est pas la série du siècle. Hein. Mais je me suis juste dit, c'est pour ça que je vous en parle, que si j'avais été ado aujourd'hui, je crois que j'aurais un peu, j'ai bien dit un peu, hein, rêvé
Vous sortez à peine de l'adolescence.
Voilà, hein. Mais j'aurais rêvé devant ces personnages amoureux, j'aurais voulu être Summer, par exemple, sur ces plages italiennes. 3 mètres au-dessus du ciel, c'est pour les ados et c'est à voir sur Netflix.
Et quelle est la série d'animation dont vous nous parliez tout à l'heure?
Ah là là, Canal Plus propose ce soir En clair à 21h la saison 2 des Cahiers d'Esther, l'adaptation de l'œuvre de Riyad Satouf, qui est à l'origine de cette version animée également. Il était l'invité de Philippe Vandel ce matin. Si vous ne savez pas qui est Esther, petit aperçu.
Je m'appelle Esther et j'ai 9 ans. J'habite à Paris dans le 17e arrondissement. Dans ma famille, on est vraiment heureux. On n'a pas de problème. Franchement, on s'entend tous assez bien.
Maman, j'entends encore la musique de merde d'Esther à travers son casque. Tu peux lui dire de baisser là?
Doucement!
Je suis en CM1 dans une école privée, ça veut dire payante. Mon père dit qu'à mon âge, c'est mieux par rapport à la violence des garçons. Ils se font tellement cons. Ben, les légume qu'on voit ton cul, espèce de démodé. Le métier que je rêve de faire plus tard, c'est chanteuse. Chanteuse célèbre, comme Chaïm par exemple. C'est une brune à la voix d'ange. On dirait que tes jambes, elles sont détachées. La pure souplesse, sa mère. Ouais, je viens.
Alors Esther, elle existe et elle grandit sous l'œil du dessinateur Riyad Satouf. Il avait débuté le récit de ses aventures dans l'Obs avant d'en faire des albums et cette série d'animation. Donc, dans cette saison 2, Esther, elle a bientôt 11 ans. Alors, elle pense évidemment au collège, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, elle est toujours en CM2. Elle continue de nous raconter sa vie d'écolière et sa vie à la maison, avec son père qu'elle adule, son frère qu'elle déteste. C'est une petite fille qui écoute Louane, Balavoine et Miles Davis. Donc, autant vous dire le bonheur parfait. Je veux bien l'adopter, cet enfant. Je suis très fan de ce personnage et de cette série.
Esther, elle écoute Chaïm aussi, visiblement.
De quoi? Oui, elle écoute Chaïm aussi.
Oui,
elle adore Chaïm, évidemment. Esther, elle nous embarque dans son monde, se moque des adultes et porte un regard critique sur la société. Et dans quelques jours, le tome 5 sortira en librairie. Il est intitulé « L'histoire de mes 14 ans ». Je dois avouer avoir hâte de découvrir vraiment Esther adolescente. Quant à cette saison 2, elle compte 52 épisodes de 3 minutes. C'est diffusé tous les jours. Vous le retrouvez sur mycanal.fr. Vos enfants vont adorer, vous aussi. Je me demande même si les grands sont pas plus sensibles à ces Cahiers d'Esther que les petits.
Bah, c'est tellement finement écrit.
Ah, c'est
et
très,
ça
très bien écrit.
Ce qui est souvent faux quand les adultes écrivent des paroles d'enfants.
C'est formidable. C'est formidable.
Là, c'est très,
même
très
l'usage des gros mots, vous verrez, l'usage des gros mots est très pertinent. Quoi. Mais vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre d'animation.
Un petit chef-d'œuvre comme votre chronique, Eva.
Voilà.
Merci.
16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Des infos, des découvertes, des entretiens et beaucoup de bonne humeur. Oui, c'est ça, l'équipe est sauvage. Avec Mathieu Noël, Eva Rock et à présent un auteur de best-seller francophone. Confinement oblige, il faut savoir, la parution de son nouveau roman L'énigme de la chambre 622 a été repoussée de 2 mois. Et il s'agit bien sûr de Joël Dicker.
Les maîtres du thriller étaient globalement tous anglo-saxons et les tentatives de thriller en langue française se soldaient souvent par des échecs.
Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Pardon ?
Nous avons affaire à un serial killer.
À quoi ?
Un serial killer.
Hein ?
Un serial killer, un tueur en série.
Joël Dicker a brisé la malédiction. Avec lui, page turner est un terme qui marche aussi en français. Un nouveau livre, tourneur de page, c'est ce que vous nous proposez depuis hier avec la disparition de Stéphanie Meiller et la vérité sur l'affaire Harry Kéber, entre autres. Voici donc l'énigme de la chambre 622. Alors dans ce livre, on a du mal à démêler le réel de la fiction. Il y a beaucoup de mise en abîme. À travers votre personnage d'écrivain qui s'appelle également Joël, vous rendez un très bel hommage à Bernard de Fallois, votre éditeur qui est décédé en 2018. Ça commence dès la dédicace, je vous cite, à mon éditeur, mon ami et mon maître, Bernard de Fallois, puisse tous les écrivains du monde connaître un jour un éditeur aussi exceptionnel. Sans lui, vous le dites clairement, votre carrière n'aurait pas été la même.
Oui, c'est lui, il est le premier à avoir cru en moi. Il est le premier, il est celui qui a fait paraître mon tout premier roman, Les derniers jours de nos pères, qui avait été refusé par tout le monde. Et les 5 romans avant ce roman-là avaient été refusés par absolument tous les éditeurs. Et donc quand je le rencontre en juillet 2011, mes 5 premiers romans ont été refusés 30 fois, donc on est à peu près à 150 refus, si je compte bien. Et là, je me dis, bon, ben, c'est vraiment la fin, le bout du bout du bout. Et puis il y a eu, voilà, tout d'un coup, quelque chose qui a cliqué. Et il a vu en moi un écrivain. Et ce qui a été hyper important pour moi, c'est que, comme je vous disais, j'avais écrit depuis des années, j'écrivais, personne ne m'éditait, j'étais pas lu, et du coup, je me sentais pas écrivain, j'avais cette contradiction à l'intérieur de moi, parce que j'avais l'impression que dedans, à l'intérieur, l'intérieur, mon identité était celle d'un écrivain, mais je n'osais pas le vivre au grand jour, je n'osais pas le dire, je n'osais pas me sentir comme ça, parce que je me disais, si je l'étais vraiment, on me lirait, ce qui n'est pas forcément vrai, hein, mais c'était le sentiment que j'avais moi. Et puis lui, Bernard, il a été le premier à croire en moi, à voir en moi un écrivain, et il est celui qui m'a permis d'affirmer, d'assurer, d'avoir, de montrer publiquement, d'oser dire que j'étais un écrivain, avant le succès, hein. Avant tout ça, il a été vraiment le premier, il y a eu cette relation forte, parce qu'il m'a permis d'être qui je sentais que j'étais à l'intérieur de moi-même.
Mais avec le recul, comment vous analysez les échecs d'avant ? Est-ce que les éditeurs vous avaient vraiment lu ? Enfin, quand on lit, par exemple, l'affaire Harry Kébert, c'est tellement bien construit, c'est tellement bien foutu, moi j'en lis beaucoup, hein, des bouquins, donc on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose d'incroyable dans ce livre. Comment c'est possible que les autres éditeurs n'aient rien vu ? Est-ce qu'ils vous avaient vraiment lu ?
Mais oui, ça, je crois que oui. Mais d'abord, heureusement que les éditeurs ont refusé mes premiers livres, parce que...
ça vous a bonifié. Non,
mais justement, ce sont ces refus qui m'ont permis de me dire, mais qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon ? Qu'est-ce que je fais que je dois retravailler ? Et c'est important, c'est des refus, En tout cas, pour moi, je l'ai vraiment pris comme des moyens de faire mieux. Et puis ensuite, il y a aussi, quand un éditeur lit un texte, il faut non seulement que ce texte lui plaise, mais il faut qu'il ait envie de le défendre envers et contre tous. Et je crois que c'est le même roman que Harry Kébert, même avec quelqu'un d'autre que Bernard, qui croyait tellement, qu'il a défendu avec une conviction telle qu'il a fait le succès de ce livre. Et j'ai des éditeurs qui m'ont dit, nous, on n'y aurait pas cru et t'aurais jamais eu le succès que t'as eu parce que, voilà, il n'y avait pas ce feu sacré que lui avait. Il est allé convaincre tout le monde comme un fou, les libraires et les journalistes et tout le monde. Il a créé vraiment ce succès dans le sens où il a fait en sorte que les gens le découvrent, s'y intéressent, le lisent. Et ça, pour le faire, il faut avoir un éditeur passionné, sinon ça marche pas.
Et Joël Dicker, aujourd'hui, vous avez besoin de convaincre encore les éditeurs pour être publié ou maintenant c'est eux qui viennent vous chercher ?
Non, ben pour l'instant, je ne me pose pas la question parce que je suis toujours aux éditions de Fallois, heureux d'y être. Il y avait une dynamique avec Bernard très agréable parce qu'on n'a pas de contrat, on n'en a jamais eu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un contrat qui disait « bon ben, les trois prochains livres, tu dois les faire chez moi ». Il me disait « écris ton livre ». S'il est bien, je le fais. Et s'il n'est pas bien, je ne le ferai pas.
Alors, dans l'énigme de la chambre 622, on imagine qu'il y a beaucoup de vous, puisqu'il y a Joël, qui est un écrivain. Est-ce qu'on va essayer de savoir ce qui est de vous ou pas de vous ? Vous dites, par exemple, enfin, vous faites dire au personnage, quand je vis l'histoire, je suis complètement happé. C'est comme si j'étais moi-même à l'intérieur du roman, dans le décor. C'est comme si j'étais dans un autre monde. Est-ce que vous fonctionnez comme ça, vous ? Est-ce que vous êtes un bonheur pour vos lecteurs, mais un enfer pour vos proches ?
Oui, mais je suis un enfer de la même façon que quand je lis, je crois que j'écris comme je lis. Et nous lecteurs, quand on lit un roman et qu'on est pris dedans, vous tous, on est dedans et on ne peut pas en sortir. Et ça, c'est un sentiment très agréable et très fort. On n'a pas envie de manger, on rate notre arrêt de bus, on est en retard, on est pris dedans, il n'y a que ça qui compte. Et ce sentiment de lecture que j'éprouve quand je lis, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire des romans aussi, pour retrouver ce sentiment-là, mais d'une façon un tout petit peu différente, dans la mesure où quand j'écris, j'écris un roman. Alors évidemment, je le vis comme lecteur puisque j'ai pas de plan, mais au fond, quand ce livre est fini et que des lecteurs le lisent, je considère que je n'ai fait que leur préparer des outils pour être ensuite eux les créateurs. Et pour moi, il y a une dimension de jeu entre le lecteur et l'auteur qui est très importante, parce que tout ce qu'un lecteur vit quand il lit un roman, il le vit pour lui, il le crée lui. Les personnages que vous imaginez, ce sont vos personnages, parce que vous les avez imaginés de façon unique. Et en ça, le lecteur a presque plus de poids que l'auteur, parce que le lecteur, il peut décider de tout. Il peut décider d'aller à l'encontre de ce qu'un auteur dit, parce qu'il peut décider que le décor n'est pas comme ça, que ce personnage est plus comme ci. Il peut refermer le livre en disant « moi, j'y crois pas, moi, ça me plaît pas ». Et au moment où le lecteur referme son livre, le jeu ne marche plus. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Joël, vous aviez suivi le cours Florent avant de réussir dans la littérature. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous êtes une star de la littérature, vous pourriez jouer un rôle dans un film adapté dans
l'adaptation de celui-là, notamment.
Dans l'adaptation de celui-ci, par exemple, typiquement.
Alors, je crois surtout pas.
Vous avez fait quelques apparitions.
Que la série marche très très mal.
Vous avez fait quelques apparitions quand même. Hein.
Non, j'ai fait des apparitions dans la série parce que Jean-Jacques Hano m'avait demandé ce que j'avais envie de faire et voilà, comment je voyais le projet, etc. Et je lui ai dit, bon, c'est ta série, je te laisse faire. Par contre, il y a une chose que j'aimerais beaucoup, c'est avoir un rôle de figurant de flic. Parce que j'avais envie de voir une fois ce que c'est que d'être un flic et l'uniforme, etc. Et donc, on a fait ça pour une des scènes. Et comme ça nous a fait rire, il m'a ensuite fait réapparaître dans d'autres scènes. Mais j'ai pas du tout la vocation de jouer d'abord dans une série ou un film en général. Et encore moins dans une série qui serait tirée de mon livre, parce que j'aimerais bien que la série ait un petit peu de succès.
La Suisse moderne a donné au monde des arts deux stars ayant réussi, moi bien sûr, et aussi dans une moindre mesure Joël Dicker. Merci Joël d'avoir été avec nous cet après-midi. On rappelle le titre de votre nouveau roman, L'énigme de la chambre 622. Je donne une piste, Eva était dans la 623.
Non, n'importe quoi.
16h, 18h, L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, L'équipe est sauvage.
Bill Withers nous a quittés le 30 mars et si son nom n'était pas forcément connu du grand public, sa chanson Ain't No Sunshine est aujourd'hui un classique universel qui a traversé quand même plusieurs générations depuis 50 ans. Eh bien, on en a parlé cette semaine dans L'équipe est sauvage avec Mathieu Noël, Eva Rock et Fred Goati.
Il entretient avec Eva Rock une relation privilégiée qui pourrait parfois me rendre un brin jaloux. Je les entends chuchoter, je les surprends dans le couloir du fond vers les sanitaires en train de tenir des propos visiblement codés.
Mais c'est une fausse trompette, non ?
C'est une vraie trompette ?
Franchement, on n'a pas envie de savoir ce qui se trame vraiment entre ces deux-là. Mais c'est vrai qu'Eva et Fred Goati ont une passion commune pour le jazz. Un peu normal quand on dirige comme vous Jazz Magazine, Fred. Mais cet après-midi,
il est mort de rire.
Vous aimez sortir votre trompette, Fred. Hein, je vous ai démasqué. Hein. Je vous ai démasqué, mon coquinou. C'est d'une véritable légende de la soul dont vous nous parlez.
Oui, bon, soyons sérieux. Un petit peu comme... Alors, c'est vrai, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Bill Withers nous a quittés le 30 mars. Et il se peut effectivement que certains se soient dit en apprenant la nouvelle, Bill qui ? Ouais, c'est difficile de leur en vouloir, hein, cela dit, parce que Bill Withers lui-même l'avait souvent dit, en 1971, Ain't No Sunshine a lancé sa carrière, et cette chanson restera à jamais bien plus célèbre que lui. Tiens, pas plus tard que la semaine dernière, Céla Sou la chantait dans le Grand Échiquier sur France 2.
C'était magnifique. Hein, bon. Voilà.
Pourtant, dans cette merveille de 2 minutes et 5 secondes seulement, qui concentre à la perfection tout ce qu'on aime dans la soul music, le blues et le folk, il y a quelque chose de vraiment inhabituel.
Ah bon. I know. Dis donc, il y en a beaucoup des I know là. Il y en a combien ? 26 si je ne m'abuse.
Vous avez bien compté, Mathieu. Bravo. Il chante effectivement 26 fois I know. Mais c'est je sais. Ils expriment non seulement toute la douleur d'un homme qui n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer sa tristesse, et il les a répétés en boucle parce que, tout simplement, quand il avait chanté pour la première fois Ain't No Sunshine devant son producteur, en s'accompagnant à la guitare, tranquillement assis sur son canapé, eh bien, il lui avait avoué « Excusez-moi, mais j'ai pas encore fini d'écrire les paroles, c'est pour ça que je répète Ain't No. » Réponse du producteur.
Ah, c'est génial.
Laissez-la comme ça, c'est formidable.
Ah, mais
alors,
c'est
cette
génial.
Chanson est géniale, mais on ne peut pas résumer la carrière de Bill Withers à Ain't No Sunshine, Fred. Il y a autre chose.
Certainement pas, parce que Bill Withers est un immense auteur-compositeur qui a écrit bien d'autres classiques qui ont inspiré un nombre incalculable d'artistes. Tiens, souvenez-vous, en 1996, le tube planétaire de Black Street. Play on, play it. Patience. Yo, Trey, drop the verse. Bon allez, bye bye Dr Dre, et rebonjour Monsieur Bill Withers. Tiens,
c'est fort.
Eh oui, No Diggity est basé sur le sample d'une autre chanson géniale et poétique de Bill Withers, Grandma's Hand, les mains de ma grand-mère. Mais revenons à Ain't No Sunshine. Céla Sou l'a chanté il y a quelques jours à la télévision, mais les Temptations, le fameux groupe soul, eux, l'avaient reprise dès 1972.
Ah, génial.
une version incroyable qui dure plus de 7 minutes.
Ouais,
vous avez la reprise qui me touche le plus est celle d'un jazzman, Roland Kirk, un saxophoniste aveugle qui pouvait souffler dans plusieurs instruments à la fois et même chanter tout en jouant. Et pour Ain't No Sunshine, il avait empoigné sa flûte traversaire et la façon dont il transforme les mots de Bill Withers en notes de musique, et notamment les fameux I know, I know, I know, bah je trouve ça tout à fait bouleversant. Voilà, ça c'est un merveilleux disque de jazz de 1972 où Roland Kirk reprend aussi d'autres merveilles de la soul music comme What's Going On de Marvin Gaye. What's Going On, encore une chanson géniale et hors norme.
Ah oui.
Aussi géniale et hors norme en tout cas que Ain't No Sunshine, mais ça, c'est une autre histoire.
Ouais, et une autre chronique et
peut-être
un autre
c'est
cachet
comme vous voulez,
pour Fred
hein.
Gohaty.
C'est vous qui voyez.
Merci, merci Fred Gohaty pour ce portrait de l'homme derrière le tube Ain't No Sunshine When She's Gone, dont la plus belle version reste indéniablement celle d'Yvette Horner.
Vous avez une capacité à tout saccager en deux secondes.
Je peux vous dire que là-haut, entre Yvette et Bill, ça doit sévèrement matcher.
C'est pas Vincent Perrani, ça.
Non, non.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Il a passé 3 mois coupé du monde. Cloîtré dans sa demeure bourguignonne avec pour seule compagnie les vannes de l'abbé Bitard.
Tu connais la différence entre un pullover et une moule?
Qui venait le confesser chaque matin entre 9h et 12h. Il n'a plus.
Il fallait au moins ça, oui.
Oui, évidemment, c'était le minimum. Il n'a plus de contact avec les civilisations modernes depuis le 17 mars dernier. Du lichen lui a poussé sur les jambes. Une famille d'hirondelles a construit un nid sur sa tête. Il a le même regard perdu que Mimi Sicu dans Un Indien dans la ville lorsqu'il découvre Paris. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis, mais ça fait du bien de venir vous revoir en studio.
Ouais, vous avez bonne mine. Hein.
Ouais,
vous avez été souvent dans votre jardin.
Non, mais j'étais pas mal. Alors, j'ai eu un peu de mal à retrouver l'adresse. Je ne me souvenais plus très bien où vous étiez.
C'est vrai que ça fait un moment. Hein. Ça fait du bien de se retrouver, Olivier,
mais
en studio.
Exactement. Et ça me fera encore plus de bien lorsqu'on pourra s'asseoir vraiment autour d'une table de manière conviviale, échanger, manger, boire un coup. Bref, la vie, quoi.
Et pour préparer, par exemple, aujourd'hui.
Ben pour préparer, par exemple, un excellent tourne-dos au poivre vert. Alors, ça, c'est une demande de mon fils, figurez-vous, qui a j'adore les tourne-dos au poivre vert. Il me dit, tiens, donne-moi ton secret, donne-moi ta recette. Je lui dis, bah, petit malin, écoute, Europe 1 demain, comme ça tu le sauras. Et puis nous, ça nous fait toujours un auditeur de gagner, voyez-vous.
C'est toujours cette prise, vous avez bien raison, il est malin. Hein.
Donc je vais lui donner cette recette. Alors, tourne-dos ou un autre morceau de viande, on peut utiliser de la bavette, on peut utiliser de la poire ou du merlan, qui sont des morceaux pas très connus, mais qu'on peut demander à son boucher, qui sont délicieux et très fondants. Alors voilà l'astuce pour bien réussir cette recette. Tout d'abord, la poêle, le choix de la poêle. On ne cuit pas la viande dans une poêle à revêtement anti-adhésif, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Ah bon ?
Et non, parce qu'elle ne va pas lâcher assez de sucre. Et ce qui est très important, c'est le déglaçage et donc les sucres qui vont être conservés dans la poêle. Donc on prend une poêle plutôt en inox ou en fonte. On la chauffe bien, un petit peu de matière grasse. On saisit sa viande avec une bonne chaleur, de manière à ce qu'elle croûte immédiatement. Et ensuite, on va effectivement déglacer, donc récupérer ces sucres avec un petit trait de cognac qu'on peut ou non faire flamber. Ça dépend si on s'amuse à jouer avec le feu ou pas.
Oui, voilà. Faire flamber
on
la maison
pas
ou pas.
Obligé de le faire flamber. De toute façon, la chaleur va enlever l'alcool. Ensuite, si on a ça, une toute petite cuillère de fond de veau, si on ne l'a pas, c'est pas très grave. Le poivre, alors là aussi, c'est très important. Moi, j'utilise du poivre vert frais. Ça se trouve dans les épiceries. Ouais. C'est bien meilleur. On peut utiliser du poivre noir concassé si on n'a pas de poivre vert frais. Mais franchement, faites la démarche de chercher ce petit produit. Ça fait toute la différence. Ensuite, de la crème, évidemment. Une petite touche de sel. Et c'est terminé.
Merci beaucoup, Olivier Poul, pour cette recette qui est disponible. Je le signale. Parce que c'est difficile de tout noter comme moi. Si vous êtes aussi nul que moi en cuisine.
Mais
elle est disponible, évidemment,
sur le
site europe1.fr en podcast. Olivier.
Pour vous, Mathieu, qui pourrait comme ça la bien la réécouter puis vous l'imprégner.
Voilà.
Et vous la faire jeudi soir quand on va se retrouver, c'est ça? Très bien, j'ai noté. Merci Olivier.
Chouette.
Poul.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, la grande compétition opposant chaque après-midi les meilleurs journalistes de la station au service de votre culture G. 2 heures rieuses mais informatives à l'issue desquelles vous désignerez votre chroniqueur préféré. Alors, normalement, un journaliste doté d'une carte de presse a une éthique qui l'empêche de faire n'importe quoi pour remporter une compétition. Mais ici, l'enjeu est tel que tous les moyens sont bons, comme nous le confiait hier Axel de Tarlé, notre expert éco.
Moi, je suis prêt à toutes les compromissions pour une bonne chronique.
Voilà. Pour contenir un peu leur ardeur, ma
complice, ma muse, la grande arbitre de notre battle, une spécialiste média très pondérée dans ses analyses, à l'antenne en tout cas, car il est vrai que hors antenne, elle se lâche parfois un peu plus.
Ah bah... Et je pense qu'il a l'âge mental des programmes qu'il présente.
Bonjour Eva Rock.
Oh, c'est vache qu'on
on embrasse.
Dire.
Évidemment, qui nous écoute tous les jours. Tout à l'heure, Eva, vous nous
c'est
direz.
Horrible.
En plus, il peut se reconnaître. Oui. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir à la télé. Mais d'abord, en attendant de pouvoir les accueillir à nouveau en studio,
j'en
on continue.
Pas ce que vous venez de faire.
On continue. J'arrive encore à vous surprendre.
Ouais.
C'est déjà bien. On continue de prendre des nouvelles de personnalités qu'on aime. Il était venu nous voir pour la sortie de son dernier roman, Insectes. Le 31 octobre dernier, il préside aujourd'hui un concours d'écriture, le prix 20 minutes du roman. Bonjour Maxime Chattam.
Bonjour. J'espère que je ne suis pas celui qui est bipé dans la bouche d'Eva.
Oh, bah,
Est-ce que ça, vous ne présentez pas de programme.
En revanche, Maxime, si vous pouvez ne pas répéter cette phrase que vous venez de dire là, parce que connaissant Mathieu, je pense que ça va être détourné.
Elle
voilà.
Pourrait être détourné. Vous êtes, Maxime, on va dire, le maître français du thriller et de l'angoisse. Vos romans sont très très noirs. Vous n'aimez pas le terme roman d'horreur. Vous parlez de grand réalisme. On dira donc que vos romans sont horriblement réalistes. Or là, le concours, hein, de le prix 20 minutes roman, oui. Le thème c'est l'avenir appartient à la jeunesse. C'est comme si Stephen King parrainait le concours des lecteurs d'Astrapi, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Maxime ? Racontez-nous ce concours.
Mais c'est surtout un moyen formidable pour pousser les gens à écrire. Vous savez, j'entends énormément de gens, je croise beaucoup de gens qui me disent « je rêve un jour d'écrire un livre » et qui finalement ne le font jamais. Et bah, parfois, il suffit de les pousser un tout petit peu. Et donc, ce concours orchestré par 20 minutes, c'est justement l'occasion de proposer aux gens de se lancer enfin, de concrétiser un rêve, d'arrêter de dire « je rêve de », mais d'essayer de faire pour concrétiser tout ça.
L'équipe est sauvage.
C'est donc le roi du thriller, Maxime Chattam, qui nous accompagne cet après-midi. Vous avez vendu, je crois, Maxime, c'est 7 millions d'exemplaires en France, c'est ça, de vos livres ? C'est à peu près le chiffre ?
Je ne les ai pas comptés un par un, donc je ne pourrais pas vous le confirmer, mais ça doit être quelque chose comme ça, oui.
Vous parrainez donc un concours d'écriture. On vous envoie des romans, c'est le prix 20 minutes du roman, c'est la première édition d'ailleurs. On en parlait déjà tout à l'heure pendant l'intro. Vous disiez, ça incite les gens à écrire. Beaucoup de gens ont envie d'écrire, mais... ne se lancent jamais, ou en tout cas ne vont jamais au bout d'un roman. Est-ce que le premier conseil qu'on pourrait donner aux gens qui veulent vraiment se lancer dans un roman, c'est leur expliquer que c'est pas juste l'inspiration, on va pas la trouver comme ça par moment. Il faut se mettre tous les jours, à heure fixe, devant une table, s'imposer une règle d'écriture en fait pour prendre un roman.
Ça commence par là en fait. C'est la première règle de l'écriture, c'est la discipline, c'est-à-dire se dire je rêve d'écrire, c'est bien, mais à un moment faut être dans l'action, sinon on peut passer sa vie entière à avoir des rêves d'écriture sans jamais avoir ne serait-ce qu'essayer. Alors que si on s'astreint, ne serait-ce que 40 minutes, on se lève plutôt une heure le matin, bah tant pis, on dormira un peu moins, mais on essaie, faut savoir ce qu'on veut, quoi. On se lève, on se met 40 minutes devant son bureau et on essaye de sortir quelque chose. Et oui, les premières fois, ce sera peut-être pas si simple, mais petit à petit, il va y avoir une espèce de dynamique qui va se mettre en place. Et l'écriture naît de cette dynamique. C'est comme une boule de neige. Au début, il n'y a pas grand-chose, mais plus on amasse, plus on essaye et plus cette boule se forme jusqu'à construire le début d'une histoire.
En 2014, vous disiez, Maxime, un thriller est une mécanique de précision hyper complexe. Il faut que ce soit divertissant, mais également, selon moi, qu'il pose des questions sur les dérèglements de la société et apporte des embryons de réponses. Est-ce que la période qu'on vit actuellement avec cette crise mondiale, ça ressemble presque, il y a quelques mois, on aurait pensé que c'était de la science-fiction, ce confinement. Est-ce que ça vous inspire ou est-ce que, quelque part, c'est trop facile? Tous les écrivains vont se ruer dans cette brèche?
Oui, en fait, faut faire la différence entre les écrivains qui vont s'y précipiter parce qu'ils sentent un filon, que ça les inspire, que ça les amuse, que ça va plaire, etc. Et puis ceux qui vont s'en servir juste parce que c'est le révélateur de quelque chose. Et ce qui est intéressant, ça ne sera donc pas de raconter en soi l'épidémie, mais plus ce que ça a révélé chez l'être humain, dans la société, etc. Là, pourquoi pas? Moi, j'avoue que c'est pas aujourd'hui, ça n'a pas donné d'envie particulière dans l'écriture, mais ça faisait des années que j'envisageais un jour d'écrire un livre sur une pandémie, alors pas de cette manière-là, et donc je le ferai peut-être, hein, c'est toujours pas prêt dans mon esprit, mais peut-être qu'un jour ça se fera. Mais en tout cas, ce qui s'est passé ne m'a pas inspiré plus que ça. Non, c'est vrai, en revanche, je trouve que c'est intéressant de voir ce que ça a suscité chez l'être humain, en France, à l'étranger, de voir comment chacun, en fait, s'est comporté vis-à-vis de ce virus et ce que ça a révélé dans les peuples et puis aussi plus individuellement dans les gens autour de nous. C'est ça qui est intéressant.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Et si on mesurait le bonheur plutôt que la richesse ? Moi, ça, c'était l'idée un petit peu farfelue qui avait traversé l'esprit du roi du Bhoutan en 1972, mesurer le bien-être d'une population. Eh bien, le concept du bonheur national brut qui était né a fait depuis son petit bonhomme de chemin. On en a parlé cette semaine dans l'équipe Sauvage avec Mathieu Noël, Eva Rock et Axel de Tarlé.
C'est un journaliste aux mille et un talents qui s'avance maintenant vers le micro. Car Axel de Tarlé n'est pas qu'un expert éco hors pair, maîtrisant sur le bout des doigts les plus complexes mécanismes boursiers. Il y a également en lui un artiste. Dans sa jeunesse, n'était-il pas le lead singer d'un groupe de hard metal baptisé Venin ? Alors bien sûr, les années ont passé et le côté rebelle et transgressif s'est un peu estompé. Mais à chaque coupure pub, l'artiste renaît sous l'économiste.
Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas.
Oh putain, il me fait chanter ce con.
Axel de Tarlé, cet après-midi, vous nous annoncez que le PIB ne vous intéresse plus. Là, vous avez tout lâché là pendant le confinement. Là. Désormais, vous voulez vous concentrer sur le bonheur avec le BNB.
C'est ce qui s'appelle casser le thermomètre. Quand des chiffres sont épouvantables,
voilà. Ah oui, c'est bien.
Comme c'est le
on
cas en ce moment
de,
avec le PIB, on dit bon, on ne va plus regarder la production parce qu'on va faire moins 15 là, au deuxième trimestre. Donc on va regarder autre chose.
On va regarder quoi ? Moins 15%?
Bah oui, on a fait moins 5,8 alors qu'il n'y avait que 15 jours de confinement.
Ouais.
Vous allez voir le deuxième trimestre. Parce que là, il y a un mois et demi de confinement. Mmh. Donc le chiffre va être... Là, on va exploser tous les... C'était déjà un record, hein, moins 5,8. Mmh. Donc là, moins 15, moins 20, vous allez voir les commentaires.
Alors repartons sur le côté rieur.
Alors voilà.
Le BNB.
Alors du coup, on s'est dit, on va arrêter de regarder ces chiffres de croissance, on va regarder les chiffres de bonheur. Vous savez qu'il y a un pays qui fait ça, c'est le Bhoutan. Et d'ailleurs, de la même façon, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Vous savez, c'est la grande astuce. Quand on n'a pas de production, du coup, on regarde si on est heureux. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'au Bhoutan, j'ai regardé, il y a 72 critères. Donc, c'est très compliqué, en fait. 60, quand, trop de critères, tue le critère. En revanche, il y a l'ONU qui, chaque année, calcule, établit le classement du développement humain, l'IDH. Et alors ça, c'est un truc, du coup, il y a trois piliers pour calculer l'IDH. On regarde le revenu par habitant, quand même, comme quoi il y a un peu d'argent, la santé, et on regarde l'éducation. Et donc ça fait le développement humain. Est-ce que vous êtes dans un pays où ces trois critères vont bien ?
Pardon, mais l'IDH, c'est un vieux critère. L'IDH, c'est le BNB, c'est la même chose ?
Non, c'est parce que je vous ai expliqué que le BNB, comme il y avait 72 critères...
Ah, parce que le BNB, c'est que le critère.
C'est que le Bhoutan qui a inventé ce concept de bonheur national brut.
Ils ont un ministère, d'ailleurs.
Voilà.
Le ministère du bonheur.
Ouais, voilà. Mais comme personne ne les a copiés, parce qu'il y a 72 critères, voilà. En revanche, l'ONU, chaque année, établit, pour tous les pays du monde, le classement du développement humain. Et donc, il y a un numéro 1. Et la France, effectivement...
On
n'est pas très bien classé.
Ah bon ?
C'est très surprenant.
Il fait pas bon vivre en France.
Eh ben voilà, on croit qu'on est le pays du bien vivre. Hein. Vous savez, les Allemands disent heureux comme Dieu en France, et nous ne sommes que 25e, alors que les Allemands sont 4e de ce classement. Mais ce qui est surprenant, ce qui est surprenant, c'est que nous sommes mais aussi derrière les États-Unis où on dit ah ils se tirent dessus, etc.
Ouais,
ils sont 15e en développement humain. Nous sommes 25e.
Bah alors donnez-nous la liste.
Ah oui, on va savoir. Pourquoi ?
Ah oui, moi j'attendais le top 5,
Le numéro 1, c'est la Norvège. C'est toujours les mêmes, Suisse.
J'aime bien ce mépris pour les pays du Nord. Et la Suisse, Axel, évidemment.
Oui, les Scandinaves, je ne sais pas, ils sont numéro 1 dans tous les classements. Bon, bref. Je reviens. Pourquoi nous sommes 25e ? Je vous ai dit, il y a trois critères dans le développement humain. Numéro 1, c'est la santé. Dans la santé, ils regardent l'âge. Alors là, pour le coup, nous, en France, on a l'une des espérances de vie les plus élevées au monde. Donc, ce n'est pas ça qui pêche. En revanche, revenu par habitant, bah oui. La France, c'est pas un pays très riche. Et tous ces pays que je vous ai cités avant sont bien plus fortunés que nous. Et le troisième critère, je vous ai dit que c'était l'éducation. Bah oui, la France n'est pas un pays fantastique pour l'éducation. Vous avez énormément de décrocheurs. Très inégalitaire en matière d'éducation.
Inégalitaire, plus inégalitaire que les États-Unis où il faut avoir je sais pas combien de blé pour pouvoir envoyer ses enfants à l'université.
C'est un mix des trois.
Oui, voilà, c'est
et
ça.
Quand sur trois critères, vous en avez deux qui sont pas bons. Eh ben à la fin, vous êtes mal classé.
Mais ce que ça veut dire, le système de santé est catastrophique, donc
Il est inégal. On va aller voir l'ONU, là. L'ONU, on va leur dire, dites donc, c'est quoi votre classement ? C'est quoi votre classement ? On est 25e. Non, mais
le thermomètre, on prend un autre.
ce que je trouve intéressant dans l'élaboration de cet indice, c'est qu'il montre que le bonheur, ça n'est pas l'oisiveté. Vous voyez, le bonheur, c'est quoi ? C'est être en bonne santé, c'est aller à l'école et aller au travail. Et vous voyez, alors nous on est en bonne santé, mais on va peut-être pas assez à l'école et on va peut-être pas assez au travail. Et voilà comment une chronique sur le monde d'après et sur le bonheur se termine en une ode sur le productiviste.
Il est retombé sur ses pattes capitalistes.
Exactement, une chronique. Merci patron. embauchez-nous, patron.
Le mec nous a emmené au bout de temps, il nous a fait rêver avec le bonheur.
Et je reviens au MEDEF.
Et il revient au MEDEF. C'est vraiment un tour de passe-passe exceptionnel. Merci, Axel. Un dernier mot pour finir sur une note plus rieuse.
Elle danse.
Diga, diga, dame à vous, Axel.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Les meilleurs moments avec Mathieu Noël, Eva Rock et à présent Jean-Philippe Ballas. Cette semaine, il a rendu hommage à une véritable légende du jazz, Jimmy Cobb, le batteur qui a participé à l'album mythique de Miles Davis, Kind of Blue, entré dans la légende avec un coup de cymbale sur le titre So What. Jimmy Cobb qui, je le rappelle, s'est éteint dimanche dernier à l'âge de 91 ans.
La batterie est un don qui se travaille bien sûr, mais soit on l'a, comme le héros de Whiplash, soit comme Eva, on ne l'a pas. Lui, Jean-Philippe,
c'était pas mal.
Il l'avait.
C'était pas mal, c'était pas désolé. Mal. Voilà, c'est pas moi,
c'est
pas
ce que disait notre prof. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'était un géant de la batterie jazz. Vous dressez aujourd'hui le portrait de Jimmy Cobb, Jean-Philippe.
Oui, je vais faire mon historien, je vais faire mon Stephen Bern un peu. Nous sommes le 2 mars 1959 à New York et nous avons rendez-vous sur la 30e dans le studio de la maison de disques Columbia. Alors c'est un bâtiment un peu particulier parce que c'est une ancienne église réaménagée, ça donne une belle hauteur souple à fond. Et là, sous vos yeux, il y a un jeune trompettiste trentenaire qui fait déjà beaucoup parler de lui à l'époque et qui s'appelle Miles Davis. Ah non, Mathieu Noël.
Oui.
Pardon, on siffle pas.
Pardon, j'ai sifflé sur So What.
C'est donc l'enregistrement de l'album Kind of Blue avec des musiciens recrutés par Miles Davis. Aussi exigeant avec son quintet que Mathieu Noël avec ses chroniqueurs, autant vous dire qu'on n'est pas chez les tocards. Plus sérieusement, il y a là notamment John Coltrane au saxophone. Je ne sais pas si vous imaginez quand même Miles Davis et John Coltrane
c'est
dans la même pièce.
Team, quoi.
Et il y a donc un certain Jimmy Cobb à la batterie. Alors Jimmy, il a 30 ans, il vient de Washington. Il a déjà sa petite réputation. Il accompagne des chanteuses comme Billie Holiday ou Sarah Vaughan, hein, comme ça au hasard. Alors comment vous dire, Jimmy Cobb, il est à cet album un peu ce que N'Golo Kanté est à l'équipe de France.
Ah ouais. Je vois bien.
C'est le type discret, tranquille, sauf que s'il n'est pas là, c'est plus du tout la même histoire. Écoutez, là, il joue des ballets sur ce morceau All Blues. Vous entendez, c'est ce petit frottement derrière.
Bien sûr.
Alors, si vous n'avez jamais joué de ballet sur une caisse claire, et que vous pensez que c'est facile, j'ai un petit exercice pour vous. Vous pouvez le faire à la maison. Alors, pas si vous êtes au volant, évidemment. Avec la main gauche, vous dessinez un cercle sur la table. Essayez, Mathieu. Un cercle sur la table, à main gauche. Et avec la main droite, vous faites un 8.
Eh ben, c'est impossible.
Voilà.
Moi, je n'y arrive pas.
Ça, c'est un exercice d'indépendance. Ouais, et avec ça, vous arrivez à jouer du ballet. C'est un premier exercice. Alors, je sais qu'il y en a qui se disent que batteur de jazz, quand même, dans l'ensemble, ça ne va pas être très compliqué. Ça ne joue pas trop vite, ça ne joue pas trop fort.
Bon, hein.
Et là, nous pouffons tous ensemble parce que il faut avoir quelque chose de rare pour être un grand batteur de jazz. Un truc un peu impalpable, il faut avoir du swing, il faut mettre les bons accents sur la cymbale. Et là, vous écoutez un autre morceau de l'album Kind of Blue, c'est Freddy Freeloader. Voilà, vous entendez ce petit shabada derrière. Alors, en batterie, il y a deux écoles, il y a ceux qui barbouillent, qui en mettent plein partout, et puis il y en a ceux qui donnent les petites touches de pinceau, les petites pointes comme ça, et ça c'est typique de Jimmy Cobb. Et puis il a un truc magique cet album de Kind of Blue, c'est qu'à la fois c'est un disque de chevet pour tous les fans de jazz, et si vous n'avez jamais écouté de jazz de votre vie, eh ben il y a différents niveaux d'écoute et vous allez adorer. Moi je pense que c'est l'un des disques que j'ai le plus offert dans ma vie, ce Kind of Blue de Miles Davis. Alors, pour comprendre l'esprit un peu cool de cet album, comme on disait à l'époque, je vous cite le maître Miles Davis, il disait « La musique, c'est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer le silence. » Et là, on comprend tout, c'est-à-dire que chacun a de la place. Et Jimmy Cobb, il laissait de la place aux autres musiciens et il les portait littéralement. Il a joué très très tard, hein. Il avait 91 ans, il est décédé dimanche. Il a joué quasiment jusqu'au bout et aujourd'hui, le style de Jimmy Cobb est même enseigné dans les écoles de batterie.
Bien écoutez, c'était effectivement, moi aussi, Kind of Blue, c'est aussi, je dois le dire, mon album culte, avec évidemment la fête au village des musclés. Merci Jean-Philippe Ballas pour ponctuer de la plus belle des manières cette chronique dédiée au rythme 5 secondes de Michael Jackson. Chapeau l'artiste.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Chaque année, les Baléares deviennent synonymes de débauche. L'archipel espagnol a voté une loi pour limiter les excès des touristes qui, chaque été, viennent profiter des formules à bas prix avec alcool à volonté. On en avait parlé dans l'équipe sauvage le 12 mars dernier avec Mathieu Noël, Eva Roque et Henri de la Guéry.
You're listening to the,
je suis impressionné par cet accent.
Équipé. Oh,
votre voix, l'émission, comme ça, c'est...
Ça vous excite?
Ah, ça m'excite.
Dites-le. L'émission qui concilie bonne humeur, journalisme de studio, mais également journalisme de terrain. Vous aimez Enquête exclusive sur M6, vous n'avez pas raté une minute de SDF, milliardaire et prostituée, les dessous du bois de Boulogne, ou encore talons aiguilles et gros calibre des filles aux commandes des gangs mexicains. Alors bienvenue dans Enquête, pas exclusive mais trash quand même, direction l'Espagne, où l'on retrouve notre correspondant à Barcelone pour votre sujet Baléares, halte au tourisme de la cuite, el turismo de la cuitas comme on dit là-bas. Bonjour Henri de la Guéry.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, pensons déjà à nos vacances d'été. Si je vous dis soleil et fête, vous pensez sans doute à Majorque ou Ibiza. Oui, voilà, les excès, c'est terminé. Les Baléares déclarent la guerre au tourisme de la cuite. La situation était devenue intenable, Henri.
Oui, alors écoutez, vous savez, l'été, certains endroits des Baléares deviennent des zones de non-droit, je n'ai pas peur de le dire, des hordes de jeunes touristes anglais, allemands, néerlandais et parfois, il faut bien dire, des Français fraîchement débarqués de leur vol low cost se livrent donc à tout type de débauche. Je vais vous faire la liste. On a des concours d'alcool sur la plage qui se terminent souvent par des comas éthyliques. On a aussi le balconing, vous savez, c'est cette curieuse activité qui consiste à sauter de balcon en balcon ou tout simplement de se jeter dans la piscine depuis le cinquième ou sixième étage. Ah oui. Il y a des morts chaque année. À Palma, ceci dit, l'été dernier, un Hollandais s'en est sorti miraculeusement. Il a mal visé, il est tombé dans un conteneur à poubelle. Et puis... voilà, mais il s'en est sorti. Ça faisait la une du Diario de Mallorca. Et puis, il y a les innombrables bagarres entre touristes alcoolisés. Il y a ceux qui confondent la voie publique avec leurs toilettes. Et parmi les infractions relevées par la police, tenez-vous bien, on a le cas cet été d'un Albanais qui a circulé dans le port d'Ibiza en Ferrari avec sur le toit de sa belle voiture rouge une femme nue, les jambes écartées. Voilà, ce ne sont que des exemples parmi d'autres qui exaspèrent les habitants. Maria vit dans une résidence près de Palma et la plupart de ses voisins sont des touristes, on l'écoute.
Ils font la fête jour et nuit, ils vendent de la drogue en bas, ils hurlent depuis le balcon. On ne peut pas dormir et on ne peut pas se reposer à cause de ces locataires.
Et alors, attendez, le Parlement des îles Baléares a donc décidé de légiférer carrément ?
Oui, effectivement. Alors, en Espagne, les régions peuvent légiférer et un paquet de mesures vient d'être voté. Les happy hour, les formules de verre pour le prix d'un, les open bar et ce qu'on appelle le pub crawling, c'est la tournée des bars, sont désormais interdits dans les points les plus chauds des îles. Les commerçants ne pourront plus vendre d'alcool après 21h30. Et puis, plus question pour vendre des boissons d'utiliser les femmes comme appât en offrant, par exemple, des défilés de lingerie aux consommateurs ou pire, tenez-vous bien, des concours de fellation. Oui, on en a vu où les jeunes filles sont récompensées par de l'alcool à volonté.
C'est horrible.
Ah bah effectivement, mais ça avait fait scandale.
Le mouvement MeToo n'est pas passé là-bas visiblement. Ah.
Ouais. En tout cas, voilà, le balconing sera également sanctionné, fortes amendes hein, entre 6 000 et 60 000 euros. Et puis surtout, attention Mathieu, il faudrait que vous teniez bien au Baléares. Une liste noire pour les mauvais touristes sera établie. C'est simple. À la moindre infraction, vous n'aurez plus le droit de venir dans l'île. Enfin, pour limiter les nuisances sonores, mais aussi et surtout pour freiner les noyades, les party boats, ce sont les fêtes dans les bateaux, seront elles aussi beaucoup plus encadrées.
Eh bien, Henri de la Guéry, je vous remercie et je note quand même l'ironie de cette chronique, puisqu'il est amusant que ce soit vous, Henri, avec qui nous avons fait quand même pas mal de soirées open bar dans notre jeunesse à Sciences Po, qui fassiez cette dénonciation comme ça, des open bar et des soirées délurées en Espagne. Vous avez bien changé, Henri.
Un vieux réac, un vieux réac. Voilà.
C'est
un vieux réac. Normal, c'est l'âge.
Et je vous embrasse, Henri.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Toujours plus d'infos et de découvertes avec Mathieu Noël, Eva Roque et les journalistes d'Europe 1. Mais justement, Anne Le Gall, notre spécialiste environnement, a eu envie de nous faire partager sa dernière découverte cette semaine. C'était précisément ce jeudi sur Europe 1.
Qui a dit que les écolos n'étaient pas rigolos ? Anne Le Gall, notre expert environnement, nous démontre jour après jour qu'une vraie conscience écologique n'est pas incompatible avec un sacré sens de la déconne. Ah, ça oui, pour rigoler, Anne n'est pas la dernière.
Lequel est un vrai pivert ? Celui-ci ? Ou alors, celui-ci ?
Oh, on se marre, on se marre.
Vous aviez
n'est pas la bonne réponse.
Ah, on se marre, mais heureusement, les chercheurs, eux, bossent. Et parfois, ils trouvent. Expliquez-nous, Anne, ce qui s'est passé à Brest, à part qu'il a plu.
Oh là là. Mais non, Brest, en plus, a été l'une des zones les plus ensoleillées récemment, là, pendant le printemps.
C'est vrai?
Ah, mais absolument.
Il ne pleut jamais en Bretagne.
Comme quoi, la route tourne.
Voilà, c'est voilà. Tout à fait objectif comme jugement. Voilà, mais on va parler de la langouste parce qu'on pensait qu'elle était silencieuse. Enfin, on aurait pu naturellement penser qu'elle était silencieuse, mais en fait, elle stridule. Elle rappe en frottant ses antennes. Exactement. Et les scientifiques pensent que c'est pour signaler sa présence ou pour prévenir ses congénères d'un danger. Les bioacousticiens ont pu, depuis plusieurs années, donc capter cet appel de la langouste. Et il faut savoir que ce bruit de la langouste...
Mais ça s'est amplifié.
Et, bien sûr, bien sûr. Mais voilà,
ouais, c'est, moi, j'ai déjà eu des langoustes entre les mains.
Peut-être vivante. Voilà, et le bruit de la langouste, en fait, est très différent de celui du homard, parce que lui, le homard communique avec une autre technique. Il fait vibrer sa carapace avec un muscle sur son corps. On dit qu'il buzz. Ça, c'est les homards.
Ou qu'il flatule. Enfin, c'est au choix, quoi. C'est l'autre
terme. J'avais jamais entendu des langoustes, c'est des homards.
Vous buzzez beaucoup, vous?
Non, je ne buzz pas beaucoup.
Pas de problème de ce côté-là?
Non, je stridule plutôt.
Ah, stridule.
Ah, oui, voilà. Donc, on retient, hein, le homard buzz, la langouste te rappe. Et la langouste, c'est beaucoup mieux se faire entendre que le homard, en fait, hein, si on met les deux.
Ah oui, bah nous en tout cas, mais on entend mieux, oui, effectivement, la langouste.
Ce que viennent de mesurer des chercheurs de l'Ifremer basés à Brest, c'est qu'on entend ce son de la langouste beaucoup plus qu'on ne le pensait sous la mer. En plaçant des hydrophones, des micros en mer au large du Finistère, Yuen Jezekel et ses collègues ont mesuré que le rap d'une langouste pouvait être entendu jusqu'à 3 km à la ronde quand il n'y a pas de bruit parasite.
Mais à quoi ça sert?
Et ça sert à quoi?
Eh
bien, les chercheurs espèrent que cette découverte déjà permettra de mieux recenser les populations de langoustes rouges qui sont en déclin depuis plusieurs années. Donc ça veut dire qu'en plaçant des hydrophones dans certains périmètres, on peut les surveiller à distance. Et les surveiller, tout comme surveiller les animaux marins en général, c'est pas juste utile pour les recenser, c'est aussi utile pour étudier leurs déplacements. Parce qu'il y a une autre étude parue cette semaine qui montre qu'en raison du réchauffement climatique, les animaux marins ont tendance à déménager, donc pour trouver de la fraîcheur ou pour trouver un environnement plus favorable, et ils bougent beaucoup plus que les animaux terrestres. Il y a donc cette étude franco-américaine qui a été menée sur 12 500 espèces animales et végétales sous l'eau, et on voit que sous l'eau, les espèces se dépassent en moyenne de 6 km à cause du réchauffement climatique, 6 km par an, contre seulement 1 km sur Terre. Alors évidemment, c'est vrai que sur Terre, il y a plus d'obstacles, et puis il y a l'urbanisation aussi qui peut empêcher les déplacements. Alors pour finir, je vous propose un petit quiz de cris d'animaux marins.
Ah oui, on va être mieux.
Voilà,
encore,
vous écoutez, hein. Et vous essayez de deviner de quel animal il s'agit.
Ça, c'est la Mathieu Noël bleue.
Non.
L'éléphant.
L'éléphant de mer. Non, c'est pas l'éléphant de mer.
Et vous dites
non,
quoi,
la baleine.
Voilà, la baleine.
Comment ça, la baleine?
Oui,
bah oui, ça, c'est la baleine.
Mais on l'a entendu tout à l'heure en même temps,
ah,
non?
Ah putain, c'est vrai. Ouais. Pardon.
La baleine boréale qui peut, rappelez-vous, chanter 184 mélodies différentes. C'est merveilleux.
Comme moi.
Alors,
certains disent même qu'elle peut aller jusqu'à 187. Ouais, 188,
ouais. Hein, mais, bah, en plus, il y a les accents régionaux. Donc, peut-être. C'est vrai, il y a les accents régionaux. Alors maintenant, deuxième son.
Eva qui se noie dans un pédiluve.
Ça, ce n'est pas un fauteuil qui grince.
C'est un phoque ou un truc comme ça, là, non?
C'est pas un... c'est plus gros que ça, c'est le clic du cachalot.
Ah, c'est un cachalot, ça? Ah, bah, il nous met la musique de foirage, là, derrière.
Bah oui, parce que c'est un foirage.
Oui, c'est un foirage, ouais.
C'est le clic du cachalot qui peut atteindre jusqu'à 230 décibels. C'est plus fort qu'un avion au décollage. Ouais. Donc, on pourrait rajouter à ce panorama un bruit de bateau, parce que les bruits de moteurs, de sonars sont omniprésents sous l'eau, et ça pose un problème de communication et de reproduction pour ces nôtres, pour de nombreux animaux marins. Il faut savoir que le trafic maritime aujourd'hui, c'est 89%... le trafic recouvre aujourd'hui 89% des bruits sous-marins, selon une étude menée l'année dernière en Californie. C'était seulement 31% il y a 50 ans. Donc, c'est vous montrer à quel point cette pollution sonore est importante.
Merci beaucoup, Anne Le Gall. Un dernier mot peut-être à l'attention de toutes les petites langoustes qui nous écoutent.
Bisous, bisous.
Bisous à vous aussi, les langoustes.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël et dans un instant Eva Rock qui va explorer les réseaux sociaux pour dénicher des séquences cocasses, décalées, étonnantes. Juste avant, eh bien, on va découvrir le sujet d'Hélène Cole, toujours dans le cadre de notre compétition.
C'est une concurrente redoutable qui s'apprête à entrer en piste dans l'Équipée sauvage. Comme elle connaît bien mes goûts, mes centres d'intérêt, la géopolitique, la sociologie comparée, la philologie comportementale, elle met toujours dans le mille pour cette haine de sujet, comme la dernière fois, son reportage sur les pratiques coquines du roi de Thaïlande. Enfin bon, mon trouble ne s'est pas entendu à l'antenne, j'étais resté de marbre.
Et puis il y a aussi une salle spéciale pour ses vins favorites.
Ah oui.
Une salle du plaisir, nous dit-on.
Ah.
On sait notamment qu'il fait fouetter ses sujets.
Ah oui. Hélène Cole, aujourd'hui ça pourrait être encore plus sexy puisque vous nous parlez du monde de la nuit à Berlin. Sauf qu'après le coronavirus, ça risque d'être moins sexy, le clubbing cet été. Comment ça va se passer?
Alors, rassurez-vous tout de même, hein, le cœur de Berlin n'a pas cessé de battre pendant ces semaines de confinement. Le silence n'est pas retombé sur la capitale de la fête. Les clubs ont été, certes, les premiers à devoir fermer ici dès le 13 mars. Mais très vite, le monde de la nuit s'est mobilisé pour proposer toutes les nuits des sessions électro sur Internet. Sur le site United We Stream, les plus grands DJ du moment se sont relayés pour mixer dans des clubs complètement vides, mais face caméra, et ainsi continuer à faire danser Berlin à la maison, comme l'autre soir en direct du Watergate. Écoutez.
Oh, on y est là, Eva.
Non, c'est marrant de le faire dans la boîte, quoi. Ah, c'est incroyable.
Ça a très, très, très bien marché. Et autre solution intermédiaire, depuis quelques semaines, avec le déconfinement progressif, certains clubs se sont transformés en sorte de kermesse électro à ciel ouvert, mélange de beer garden et de cirque ambulant, dans un décor mi-Blade Runner, mi-film de Tim Burton. Ça marche très bien aussi. Mais évidemment, ça marche si vous avez des beaux espaces à l'extérieur. C'est souvent le cas sur les friches de Berlin. Mais tout ça ne remplace pas l'expérience d'une nuit de fête. Alors, faut-il accepter de renier ces principes pour survivre? Parce que Mathieu, en fait, qu'est-ce qui rend ces nuits berlinoises si mythiques? Eh bien, c'est le fait qu'on ne sait pas ce qui s'y passe.
Eh oui.
Et pour garantir justement ce mystère, que font les videurs avant même que vous soyez rentrés dans le club?
Ils enlèvent tous les téléphones portables des poches.
Exactement, ils prennent le téléphone portable et ils collent des gommettes sur les lentilles des appareils photo. Et donc tout ce qui se passe à l'intérieur reste à l'intérieur, personne n'en saura jamais rien. Et d'ailleurs c'est aussi pour cette raison qu'il n'y a jamais eu de caméra de télévision dans les clubs, jamais de reportage. Il faut venir pour vivre l'expérience et la vivre vraiment, parce que sans appareil photo, il n'y a pas non plus de phénomène de groupe qui font des selfies, etc. juste pour impressionner les uns ou les autres sur les réseaux sociaux. Ça crée vraiment une ambiance très particulière, un côté hors du temps, assez grisant et totalement typique de Berlin.
Et donc, tout ça, cette magie qu'on ne peut vivre que si on se rend à Berlin, ça va être remis en question à cause du coronavirus.
Oui, alors les tout premiers foyers d'infection ici à Berlin, ils sont partis de boîtes de nuit début mars. Et donc les autorités sont extrêmement tatillonnes sur les gestes barrières et surtout sur la possibilité de pouvoir contacter les clubbeurs si jamais l'une des personnes présentes pendant la soirée est testée positive. Du coup, les boîtes envisagent de rouvrir en réduisant évidemment le nombre de visiteurs, mais aussi avec un système de pré-vente sur Internet. On serait en fait tracé. Fini la grande liberté, l'anonymat total. Il faudrait aussi anticiper sa soirée, choisir un horaire fixe pour aller danser. Et c'est tout le côté spontané des nuits berlinoises qui va disparaître. Et puis ensuite, à l'intérieur, deuxième révolution, il faudra tout payer en carte de crédit pour éviter les échanges de monnaie. Alors au bar, à la rigueur, pourquoi pas. Mais il y a dans les boîtes de nuit berlinoises d'autres petits business sur lesquels, d'ailleurs, la police ferme les yeux. Là, c'est clairement plus difficile d'imaginer les dealers qui sont toujours installés dans les toilettes, d'ailleurs c'est assez exigu, avec leur machine à cartes. Sans parler évidemment des autres rapprochements, réels ou fantasmés, qui font évidemment le mythe de ces soirées à Berlin. Il faut savoir qu'un touriste sur trois vient à Berlin juste pour faire la fête. Donc c'est une manne énorme, 1,5 milliard d'euros par an. Et selon les dernières estimations, le secteur berlinois des nuits, avec les aides publiques, va pouvoir tenir comme ça jusqu'au mois d'octobre. Et après, il faudra vraiment faire un choix, vendre son âme pour voir revenir les visiteurs, avec le risque qu'en devenant un peu ordinaire, les nuits de Berlin perdent définitivement leur attrait.
Merci.
Moi, je pense qu'ils vont vendre leur âme.
Hélène Cole, on l'espère un petit peu secrètement, parce qu'après Barcelone, Eva irait bien faire un petit tour à Berlin. Merci.
C'est chouette, ce tour
d'Europe.
J'ai une chambre d'amis.
Merci, Hélène.
Ça, c'est bien.
Ça, c'est
un point pour moi.
Pas de proverbe à base de saucisse pour conclure?
Oh, bah non, cette fois-ci, non.
Décidément.
Je vous ai parlé des dealers en EVC, c'est pas mal déjà.
Tout fout le camp dans ce pays.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Là, très franchement, et sans second degré pour une fois, les amis, j'aurais une pensée pour tous ceux qui vont avoir 20 ans cet été. Nous, on en a profité, mais eux, vous imaginez, devant
devoir draguer avec un masque, bronzer avec un masque, se tenir à distance, pas de boîte de nuit peut-être. Pour cette génération maudite, je propose qu'on se réécoute 10 secondes de Carlos.
Tout nu et tout ils comprennent pas, ils savent pas ce que ça veut dire, hein, tout ça. On est beau
quand on c'était l'époque mais de l'insouciance. Oui. Eva, restons dans le feel good.
Allez,
avec votre mix
mais
du
oui,
jour.
Mais oui, avec Sébastien Bordonnave, on poursuit notre exploration quotidienne des réseaux sociaux à l'affût des meilleures séquences. Alors, au programme aujourd'hui, le site Combini qui a demandé à notre copine sexperte Maya Mazorette quel personnage historique elle aurait aimé être. Et puis l'excellent Aymeric Lomprey qui chante avec Marie Reynaud « L'amour confiné ».
On s'est rencontrés pendant le confinement dans un rayon de chez Auchan.
Et nos mains se sont frôlées avec douceur sur le dernier paquet de PQ double épaisseur.
Il m'a dit je pense que c'est toi qui en as le plus besoin.
Parce que moi souvent je fais dans le jardin.
Peut-être que j'aurais voulu être Jules César, dont on disait à l'époque qu'il était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. C'est vrai qu'on oublie de dire comme ça quand on parle de Jules César comme grand badass, guerrier, conquérant, que c'était quelqu'un qui préférait plutôt être en dessous au lit en fait, avec les hommes. Voilà ce qui remet un petit peu culturellement les choses en place.
L'amour comprimé, c'est si romantique, c'est si romantique. Tout le monde est masqué, c'est super pratique, c'est super pratique.
Ah non, moi c'est Robert qui habite dans l'Essonne.
Enchanté.
C'est très bon ça, vous nous rappelez ce que
j'adore,
c'est.
J'adore, c'est Aymeric Lomprey avec Marie Reynaud. Allez voir toutes ses chroniques, c'est exceptionnel. Voilà, vraiment.
Ah, oui. Ah c'est ça que vous... Alors là, je peux le révéler.
Oui.
Vous avez passé l'après-midi à vous bidonner.
Oui,
en
j'adore.
Regardant quelque chose.
J'adore
vous aviez votre casque, on n'entendait pas ce que c'était.
Mais
c'est
oui.
Donc Aymeric Lomprey.
Exactement.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1.
Et rendez-vous demain dès 16h en compagnie de Mathieu Noël et son équipée sauvage.